titre du message d'aujourd'hui et repassons dans nos cœurs la naissance de Jésus. Quelle trace va laisser Noël 2025? Alors c'est peut-être un simple Noël de plus, un rappel juste avant 2026, il va y avoir une nouvelle année. Déjà il y a d'autres réveillons qui sont en perspective. Et quel va être qu'est-ce qui va rester du souvenir de l'incarnation du Fils de Dieu? Noël, c'est peut-être qu'une soirée, une journée, et peut-être ceux qui ont de la chance vont recevoir un cadeau, et peut-être ce cadeau va finir au fond d'un placard ou il va être tout simplement finir au fond de l'estomac. Et dans le meilleur des cas, il va perdurer et ce sera un cadeau de Noël 2025. Mais ce serait dommage qu'il ne reste que cela de Noël, de la commémoration de la venue de Jésus dans le monde. La semaine dernière, nous avions lu dans Luc au chapitre 2 et je voudrais reprendre un petit passage de ce que nous avons lu dans Luc au chapitre 2. Nous avons lu l'annonce des anges. On avait lu de 1 à 20. Et là, je voudrais relire l'annonce des anges. Verset 8, quand le moment où les bergers ont été prévenus par les anges. Nous lisons ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Une bonne nouvelle, un sujet de joie. Surtout ne pas avoir peur, surtout d'être heureux. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Messie, qui est le Seigneur. Alors, cette information clé, je voudrais là passer, profiter d'un dimanche de plus pour la repasser comme avait fait Marie à la fin du passage. On lit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Combien d'années ont nos vies, combien de fêtes de Noël allons-nous vivre, combien nous en reste-t-il à vivre et quel impact cela va laisser dans nos vies. Est-ce que ce sera simplement, si on vit 80 ans, 80 ans de repas de famille? Est-ce que ce sera 80 ans où on a échangé des cadeaux? Est-ce que ce sera 80 ans, une fête qui marque les années qui passent? Je ne sais pas si vous avez vu le film là qui s'appelle, le film d'animation qui s'appelle Là-haut, oui. On voit chaque fois les cravates qui changent. À chaque anniversaire, on change de cravate. Monsieur reçoit une nouvelle cravate. Et à travers toutes ces cravates, on voit que les années ont passé. Est-ce que Noël, ce doit être cela seulement? Moi, je voudrais que cette année Noël ait plus d'impact, que ça ait vraiment de l'impact dans nos vies. Alors, on va passer un petit peu plus de temps pour savoir tout ce qui s'est dit, tout ce que l'Esprit Saint nous a voulu nous révéler par Luc. Luc était un auteur inspiré par Dieu et il a consacré 2 chapitres à la naissance de Jésus. Et je voudrais qu'on saisisse, qu'on rassemble tout ce qui est dit sur Jésus là, au moment de sa naissance. Voilà ce que je vous propose donc de faire. Et donc, on va aller écouter ce que l'ange a dit à Marie au tout début. L'ange Gabriel a visité Marie et lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Alors, on va lire du chapitre 1, du verset 30 au verset 33. L'ange dit à Marie, donc, « N'aie pas peur, encore une fois. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. » Donc, tu lui donneras le nom de Jésus. Première information, il sera grand. Deuxième information, il sera appelé fils du Très-Haut. Troisième information, le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Quatrième information, il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Cinquième information, son règne n'aura pas de fin. Sixième information dans ce passage, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus en français, en anglais, c'est Jesus. En grec, c'est Jesus. Et c'est Jesus, c'est la traduction en hébreu de Yeshua. Qui est le nom que portait en français Joshua en anglais, donc la personne qui a conduit la conquête militaire du temps de Canaan, de la conquête de Canaan par les Israélites, le successeur de Moïse. Voilà le nom qu'a porté Jésus. Il a porté le nom du successeur de Moïse, Yeshua. Et ce nom signifie « L'Éternel est salut ». L'Éternel est salut. Tu lui donneras le nom de Jésus. Un nom qui est à la fois commun, mais qui est à la fois chargé de beaucoup d'informations. Deuxième information, il sera grand. Il sera méga. Il sera incontournable dans l'histoire de l'humanité. Et il est, nous sommes en 2025, après Jésus-Christ. Un nom grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Très-Haut, ça désigne le maître du ciel et de la terre. En Genèse 14, 18, c'est Melchizedek qui appelle ainsi le Très-Haut le maître du ciel et de la terre. Et c'est une façon de désigner l'Éternel sans le nom, mais par son nom. On parle du Très-Haut. Et ça met une distance très haute entre le Dieu créateur, le souverain, et l'ensemble de l'univers, l'ensemble de la création. Le premier à avoir appelé Jésus de Nazareth fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut, curieusement, ce sont les démons. Ce sont eux qui désignaient Jésus de cette façon-là. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Dieu avait fait une alliance avec David en 2 Samuel chapitre 7. Il avait dit à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Il y avait là une promesse, un engagement, une alliance que Dieu avait fait avec David. Et depuis le temps où Jérusalem avait été châtiée, depuis le temps où Nebuchadnezzar avait mis, et le roi de Babylone avait mis fin au royaume d'Israël où Joachim avait été déporté en Babylonie, voilà que le trône de Jérusalem, le trône de David, était vacant, en quelque sorte. Et là, il est déclaré par rapport à Jésus, le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Jésus était destiné à régner sur les, est destiné à régner sur les 12 tribus d'Israël. On a vu avec l'histoire des rois dernièrement combien, après Salomon, le royaume a été séparé en deux. Il y a eu un schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud. Les tribus n'étaient pas unies sous un seul roi. Mais là, il est écrit que Jésus règnera sur les 12 tribus de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin, est-il ajouté. Et cette expression renvoie aux visions prophétiques qu'avait eues Daniel, Daniel chapitre 2, versets 44 et 7, 14. Un fils d'homme recevra la domination universelle pour toujours. Je vais vous lire ce chapitre parce qu'il est très beau et il est très encourageant à mettre en perspective avec ce que l'ange avait dit à Marie. Daniel chapitre 7. Versets 13 et 14. Donc il y a la vision des quatre animaux, verset 13. Je regardais mes visions nocturnes. Il a vu une succession d'animaux qui représentait la succession de royaumes. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. En contraste avec tous ces royaumes qui devaient se succéder, que ce soit Babylone, que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains. Son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Il sera grand. Un autre passage, ensuite, où nous trouverons des informations sur Jésus, c'est un petit peu plus tard ce que Zacharie a prophétisé sur ce fils qui devait suivre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant le fils donc de Zacharie, le fils naissant de Zacharie. Donc son père prophétise et il dit ceci. Chapitre 1, verset 67 de Luc, chapitre 1. On revient dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 67 à 79. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisé en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Une première information. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tout ce qui nous déteste, de tout ce qui nous haïsse. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Une deuxième information ici. Après avoir délivré des ennemis, accordé de servir Dieu sans crainte, dans la sainteté. Et toi, petit enfant, il parle après de Jean-Baptiste, de son fils, Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Troisième information, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Le Dieu d'Israël nous a donné un puissant sauveur, verset 69. Dans l'histoire d'Israël, il y a des... Dieu suscite des hommes pour sauver son peuple. Cela arrive à plusieurs reprises, particulièrement dans le livre des Juges, on voit ça. Et jusqu'à David, qui est le plus célèbre des personnes, qui a délivré le peuple. Il a établi le royaume qui est appelé le royaume de David. Aucun cependant n'a été qualifié de puissant sauveur. Un puissant sauveur. Et dans ce texte, avec ce qui suit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de ceux qui nous détestent, on peut voir quelque chose, que ça s'accomplit de nos jours. De nos jours, nous savons qu'il y a de nos frères et de nos sœurs qui sont détestés parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont haïs, on leur en veut, on leur fait du mal. Et ils ont l'assurance qu'ils sont protégés et délivrés par Jésus. Ils expérimentent cela aujourd'hui. On peut aussi, bien sûr, penser au retour de Jésus-Christ, lorsqu'il a, il est prophétisé qu'il viendra détruire l'Antéchrist. On lit ça en 2 Thessaloniciens chapitre 2, et on peut se référer à ce passage-là également, qui est à venir. Ensuite, versets 74-75, « Après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accordera de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Notre plus grand ennemi n'est pas ceux qui peuvent nous haïr. Notre plus grand ennemi, c'est l'ennemi que nous avons à l'intérieur de nous. C'est le péché, on le sait bien. C'est lui qui nous tient éloignés de Dieu et de sa bénédiction. C'est lui qui nous fait du mal, qui nous fait faire du mal, donc il faut absolument être délivré. Et dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6, Paul expliquera en détail que le baptême dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ délivre le chrétien de la puissance du péché. Le chrétien est déclaré juste par le sang de Jésus et il est libre de le servir librement et de porter du fruit pour lui, et l'accomplissement de cette prophétie est accompli en Jésus-Christ. Il nous accordera de le servir sans crainte, sans peur, sans la peur du châtiment, sans la peur pour toujours éloigné de lui. Et donc, au contraire, de le pouvoir le servir en marchant dans la sainteté, dans la justice, chaque jour de notre vie. Libre de servir Jésus-Christ. Et il y a une autre prophétie au verset 70, au verset 78. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Jésus-Christ va déclarer, nous le savons, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Et on peut encore relire pour la joie de relire ce texte, Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6, Ésaïe chapitre 9. Je vais vous en faire la lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Ésaïe chapitre 9. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Imaginez que vous êtes gagnant du gros lot, du loto. Cette joie qu'on peut avoir quand on est gagnant du gros lot, du loto, ah ben, c'est la joie, c'est ce type de joie-là que le peuple ressent quand il voit la grande lumière qui passe des ténèbres à la lumière. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui le frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Jésus a vaincu toutes les forces de Satan. Toutes chaussures qu'on porte dans la main et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix, Jésus va déclarer, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas, comme le monde donne. Et il y a une magnifique prophétie d'Ésaïe, quelques pages plus loin, au chapitre 26, les 6 premiers versets. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissée jusqu'à terre. Il l'a fait toucher la poussière et les fouler aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le soleil nous va visiter d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. On trouve ensuite l'adoration de Siméon, Luc chapitre 2, versets 29 à 32. Je reviens à l'évangile de Luc. Siméon, il adore quand il était âgé et il avait reçu cette assurance qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie de Dieu. Et voilà que Joseph et Marie arrivent 40 jours après la naissance pour présenter, selon l'usage, Jésus-Christ au temple devant le Seigneur. Et là donc, il croise Siméon qui est conduit par l'Esprit Saint et il prend l'enfant Jésus dans ses bras et il loue Dieu. Il dit ceci, son père, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Trois deux informations ici. Ton salut, le salut est de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui serait humain ou qui serait, je ne sais pas, quelque chose à faire ou quelque chose qui devrait être produit. C'est le salut de Dieu. Paul écrira plus tard dans sa lettre aux Éphésiens, cette lettre circulaire à tous les chrétiens d'Asie, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est de Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut est une personne, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un décret. Jean-Baptiste désignera Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pierre affirme, acte 4:12, au chef des Juifs, « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, tous les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Mes yeux ont vu ton salut. Le salut est Dieu lui-même, bien sûr. Jésus est le Fils de Dieu, selon les paroles de l'ange, le Fils du Très-Haut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, pas seulement devant les Juifs. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Lumière pour éclairer les nations. Isaïe a prophétisé un Messie qui devait impacter toutes les nations. Et Dieu déclare en Isaïe 49,6, je vous le lis, c'est trop peu pour que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël, en faire une nation. Je t'établis pour être la lumière des nations, de tous les autres peuples, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était quelque chose de difficile pour le peuple juif que d'accepter cela, accepter l'idée que son Messie allait être le Messie, une bénédiction pour tous les peuples de la terre et pas seulement le peuple d'Israël. Quelque chose qui est encore très difficile à accepter. Et il y a des rajoutes, gloire d'Israël, ton peuple. Et en même temps, il est difficile pour ceux qui ne sont pas juifs d'accepter l'idée que Jésus est juif. C'est un juif, il est 100% juif, il est né d'une femme juive pieuse, il est né sous la loi de Moïse. Jésus-Christ est juif, il est 100% juif. C'est la gloire d'Israël, c'est la gloire du peuple juif, c'est la gloire du peuple hébreu. Ensuite, Siméon continue avec une prophétie. Il s'adresse à Joseph et Marie. Joseph et Marie étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. On peut le comprendre, tout ce qu'ils avaient entendu à propos de ce petit enfant. Et Siméon va apporter une nuance là. Il les bénit et il dit à Marie, sa mère, Luc chapitre 2, verset 34, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Des paroles bien énigmatiques. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Jésus va devenir en effet une pierre d'achoppement. Il va être quelqu'un qui le fait chuter ou pas. On le sait, il va être reconnu comme le Messie, soit il va être rejeté et pas reconnu comme le Messie. et la majorité des Juifs vont rejeter Jésus. Et jusqu'à présent, la Bible déclare que l'éternité de chacun dépend de la façon dont il a considéré ce Jésus, ce cadeau que Dieu a fait aux hommes. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Un signe qui provoquera la contradiction, la chute et le relèvement de beaucoup, suivant la façon dont il sera reçu par chacun, jusqu'à présent. « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, dit-il à Marie. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs sont relevées. » Ce sont les seules paroles qui nous laissent sous-entendre que le rejet du Messie sera violent. Il sera violent. On n'en sait pas plus. Le suspense va être tenu jusqu'à la fin du livre de Luc, jusqu'à la fin de l'évangile de Luc, jusqu'au dénouement. Que va devenir ce Messie? Est-ce qu'il va finalement être accepté ou est-ce qu'il va être rejeté? On ne le saura qu'à la fin. Rien n'est dit de la façon dont le salut va être accompli. Rien n'est dit sur le prix qui devra être payé, le prix, la valeur de ce don de Dieu à l'humanité, le prix élevé qu'il représentait. Rien ne le dit ici au début de l'évangile de Luc. Tout est belle promesse, accomplissement de promesse, tout est invitation à la joie, tout est invitation à la louange, à l'adoration. Si ce n'est à Marie, une épée te transpercera l'âme. Alors pour conclure la commémoration, ces deux chapitres nous invitent à nous souvenir de la venue de Jésus. Il les fait l'exposer à travers tout ce qui est dit de lui dans ces deux chapitres, de tout ce qu'il va apporter à l'humanité. Et donc, pour terminer, du choix que cela va être pour chacun et pour chacune face à ce don de Dieu. Il a donné un sauveur, il a donné un Messie, un Noé, celui qui est la faveur de Dieu, et il a donné également un Seigneur. Qu'allons-nous faire de lui? Un moment unique, ces deux chapitres, où il n'est question que de joie. Et on peut bien sûr, c'est l'occasion de le faire, recevoir joyeusement ce cadeau, comme l'ont fait tous ceux qui ont été en contact avec lui, que ce soit les rois, les bergers, que ce soit Siméon, que ce soit Anne, que ce soit tous ceux qui ont eu connaissance de cette naissance. Que Noël 2025 puisse être marqué dans nos cœurs par l'appropriation de cet enfant. L'adoration de ce bébé, ce salut, ce Messie, ce Seigneur dont tout homme a besoin. Si nous avons besoin de salut, nous avons aussi besoin d'un Seigneur. Et notre monde a besoin d'un Seigneur. Il a besoin de ce Jésus, de cet enfant de paix. Merci, Père Céleste, pour cet écrit inspiré que Luc nous a laissé. Merci pour la façon dont il commence cet évangile avec tellement d'espoir. Et merci pour cette histoire qui va ensuite se dérouler dans le livre, dans l'évangile de Luc, puis dans le livre des Actes, et qui se déroule jusqu'à nous, jusqu'à présent, jusqu'à nous, qui sommes invités à répondre à cette question. Que feras-tu de Jésus? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Il n'y a que deux possibilités, l'accepter ou le mettre de côté. Merci pour ce don gratuit, merci pour cette fête des anges qui ont inauguré, qui ont marqué la venue du don de Dieu pour les hommes, pour l'humanité entière. Merci que nous puissions commencer et avoir en perspective cette nouvelle année 2026 comme une année vraiment nouvelle où Jésus aura toute sa place dans notre vie. Une place renouvelée. Nous sommes chrétiens. Nous connaissons le nom de Jésus. Mais que ce soit une année renouvelée. Nous sommes renouvelés dans notre adoration pour lui, dans notre joie de le servir, dans notre joie de vivre dans ce salut gratuit, total, parfait qu'il est venu nous apporter, que nous puissions ainsi porter du fruit pour lui comme un acte de reconnaissance. Par Jésus. Amen. Amen.